On reprend à la page 30 à 3. Et la Gemara va s'arrêter sur ce qu'on a dit dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah ? Kle chesef ou kle nechoshet. On a dit que si j'ai trouvé des ustensiles en argent et des ustensiles en cuivre, mishtamesh ba'em, j'ai le droit de m'en servir. D'accord ? Mais j'ai le droit de m'en servir, on a dit, uniquement pour le besoin de l'objet. Ça veut dire, je veux m'en servir de temps en temps pour le... Je vais m'en servir de temps en temps pour le rafraîchir, d'accord ? Mais on n'a pas le droit de l'abîmer. Très bien. Alors, Tanou Rabbanan et Chachamim m'ont enseigné dans une braïta. Ils ont enseigné la chose suivante. Amotse Kliets. Celui qui trouve un ustensile en bois. Mishtamesh Bahem, il a l'obligation de s'en servir. On ne donne pas de laps de temps, mais il doit s'en servir de temps en temps. Pourquoi ? Bishvil se le iragvou, parce que le bois pourrit. Et le fait de s'en servir, ça l'empêche de pourrir. Bien d'accord ? Très bien. Donc là, vous allez voir, on va citer différents matériaux, et dans chacun des matériaux, on va parler du problème qu'il peut avoir. Donc le bois, le problème du bois, c'est quoi ? C'est que le bois, il pourrit, il moisit. Bon. Donc c'est pour ça qu'il faut s'en servir de temps en temps, pour l'éviter de moisir. Klei nechoshet. Si une personne a trouvé des ustensiles en cuivre, mishtamesh bahem bechamin. Il a le droit de s'en servir à chaud, et à plus forte raison, à froid. Aval, mais, le al yedéao, mais pas sur le feu. Style marmite. Pourquoi ? Mipne chez Mashrikan. Ah, ici, il y a plein de mots, je sais pas comment il est traduit ici. Mipne chez Mashrikan, puisque il est, c'est Mashriran, puisqu'il est noirci. D'accord? Mipne chez Mashrikan, puisqu'il ne peut pas, Mipne chez, pardon, chez Mashrikan. Non, c'est pas ici.
Non, voilà.
Non, c'est mis chez Mashrikan. Car il les use. Shochek, ça veut dire user. Donc, un ustensile en cuivre, on a le droit de se servir à chaud, à froid, mais j'ai pas le droit de m'en servir. J'ai pas le droit de le mettre sur le feu. Pourquoi ? Puisque ça va l'user. Ensuite, Kle Chesef, un ustensile en argent. Mishtamesh Ben Betsonen, on a le droit de s'en servir à froid. Avalo Bechamu n'est pas à chaud. Mipne chez Mashriran, puisque l'eau chaude noircit l'argent. Vous savez ça ? L'eau chaude.
Oui, mais parce que c'était pas traité comme au jour d'aujourd'hui.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est le contraire. Tu chauffes de l'argent, il éclaircit. C'est-à-dire, si tu as l'argenterie à éclaircir, tu la mets à
aujourd'hui,
bouillir.
Aujourd'hui, c'est plus le problème.
Tu prends du papier aluminium. Tu jettes un bout de papier.
Aujourd'hui, c'est plus le problème.
C'est plus le problème. Non, parce qu'il y a des...
Parce qu'à l'époque, c'est noircissé.
Il n'est pas titré comme ça. À l'époque, tu faisais comme ça, tu le tordais l'argent.
Ouais. Alors, donc, musée chez Machin. Ensuite, Matza, on est ici, là. Allez. Matza Magrefot. D'accord. Si une personne a trouvé Magrefot de Kardoumot. Donc, ça veut dire Magrefot de Kardoumot. Magrefot, c'est des pelles. D'accord. Avec cardoumot et des petites haches. Après, on utilisait des pelles et de haches. Alors, on ne parle pas ici des pelles et des haches qu'on utilise dans les chantiers. On parle des pelles et des haches maison. À l'époque, par exemple, quand on voulait séparer des figues, ou quand on voulait, etc. Donc, on avait des pelles et des haches maison. Qu'est-ce qu'on dit ? Mishtamesh ben berach. On a le droit de s'en servir pour traiter quelque chose de tendre. Aval, l'eau bécachée. Mais pas pour quelque chose de dur. C'est comme une fourchette. Une fourchette. Si vous prenez quelque chose de dur avec, naturellement, vous allez la tordre. Un petit peu. Donc, de temps en temps, il t'aura à t'en servir, mais à condition de faire seulement, de t'en servir seulement à quelque chose de tendre, mais pas quelque chose de dur. Il pneu chez ma fritane, puisqu'avec quelque chose de dur, on va l'abîmer. Ensuite, clé za'av ou clé srochit. Si une personne a trouvé des ustensiles en or et des ustensiles en verre, quand l'oïga ba'em, achevo iliaou, il n'a pas le droit de toucher jusqu'à ce qu'il y en ait vu à venir. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'or, dans tous les cas, il s'abîme. Tu utilises à chaud, à froid, tout ce que tu veux. L'or, dans tous les cas, il s'abîme. On a le même risque pour le verre. Encore le cristal. On considère que, quoi qu'il en soit, tu vas l'abîmer. Ça s'abîme. Chaud, froid, ça s'abîmera. Donc, puisque c'est pas mon objet, je l'ai seulement trouvé. Et puisque, de toutes les façons, il va pas, ça veut dire, il va pas s'abîmer. Ça s'abîme pas. D'accord? L'or et le verre, ça s'abîme pas. À la limite, ça va se salir un peu, mais ça se nettoie, y a pas de problème. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de s'en servir jusqu'à ce qu'il y en ait à venir. Et ensuite dit la Mishnah, la Braïta, pardon, que derer shamru ba'aveda, de la même manière qu'ils ont dit les Chachamim en ce qui concerne une perte, ka shamru ba'fikadon, ils ont dit de la même manière pour un pikadon, ça veut dire un objet qui m'a été donné en dépôt.
En dépôt.
Un objet qui m'a été donné en dépôt, c'est la même chose. Apparemment, j'ai pas le droit de faire ce que je dois m'en servir de temps en temps. Alors, Gmar a posé la question, on dit, attends, je comprends pas. Pikadon m'a évité quand même. Je comprends, tu me dis une trouvaille, je comprends. Tu me dis une trouvaille, de temps en temps il faut la rafraîchir, ça je comprends. Mais un dépôt, qu'est-ce que tu me demandes ?
Là, il est en d'accord contact avec le propriétaire.
Je suis en contact avec le propriétaire, c'est le propriétaire. Quelqu'un il me donne à garder quelque chose, il me dit, c'est ce que tu veux, tu peux me garder mon objet. si le propriétaire a vraiment, on a vraiment affaire à son objet, enfin, il n'a qu'à venir lui et le nettoyer. C'est pas mon affaire. Vous comprenez la question de la Gemara ?
Ah, puis, ils vont donner les directives.
Bien sûr.
En disant, tu peux t'en servir.
Quelqu'un m'a donné quelque chose à garder. Il m'a donné un objet à garder. D'accord ? J'ai pas le droit de le toucher. C'est quoi si tu t'en servir pour le rafraîchir ? C'est pas mes affaires. On m'a demandé de le garder, c'est tout. Alors répond la Gemara. Regardez les réponses. C'est une réponse très intéressante. Amar Ravada bar Chama, Amar Rav Shechet. Ravada bar Chama odi à nom de Rav Shechet. De quelqu'un en parle. Be fikadon shalchu ba'alel mimdinat hayam. On parle que quelqu'un m'a donné quelque chose en dépôt et qu'il est parti dans un autre pays. Je sais, il a fait sa valise, il est parti dans un autre pays. Je sais qu'il va revenir, mais pour l'instant, il n'est pas là. Écoutez bien ce qu'il dit Ravada. D'accord ? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que dans ce cas-là, l'objet est considéré entre guillemets comme perdu. Vous suivez ? Puisque la personne, le propriétaire n'est pas là, dans les faits, je sais qu'il est propriétaire, mais il n'est pas là maintenant, il est en Amérique. Le temps qu'il revienne, ça prend des mois. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit Ravada ? Il nous dit que l'objet est considéré comme perdu à ce moment-là.
Le propriétaire est devenu virtuel.
Donc, j'ai
trop loin.
Donc, je sais qu'il est là, il va revenir, mais entre-temps, l'objet est considéré comme perdu et j'ai l'obligation de m'occuper de l'objet.
Mais au départ, il devait...
il devait donner les consignes.
Il n'était pas prévu qu'il parte.
Voilà, bien sûr. Bien sûr.
Il est parti, oui, il est parti en prison.
Il devait le récupérer.
Il est en prison, le propriétaire.
Oui, là, c'est pas de la prison.
Ça revient.
Alors, on apprend quelque chose de très fort. On apprend qu'un objet perdu, c'est pas seulement... C'est très très fort ce qu'on est en train de dire ici. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, quelqu'un il vous donne de l'argent à garder. De l'argent, des espèces. D'accord ? Et entre-temps, il oublie qu'il vous les a donnés et il fait un voyage à New York. Et vous savez qu'il sera pas là dans au moins un an ou deux. Et entre-temps, vous pensez que la monnaie, elle va perdre de valeur. Il vous dit, mais attends, ça va se dévaloriser, il faut la placer cet argent. Il faut la mettre dans un compte. Dans un livret... pour gagner 3%. D'accord ? Normalement, j'ai pas le droit. L'argent que m'a donné dans le dépôt, je la garde en dépôt tel quel. Vous me suivez ? Mais là, on apprend quelque chose. On apprend que quand c'est un cas comme ça, que le propriétaire est pas là, ou comme vous dites, il est en prison, ou des choses comme ça, ben l'argent, même si je connais le propriétaire, l'argent est considéré comme perdu.
Et donc, je dois l'empêcher de se déprécier.
Donc, si ce sera un objet, ben je dois le rafraîchir de temps en temps. Si c'est de l'argent, il faut que je le place. Si on passe du franc à l'euro, il faut le changer. C'est très fort.
Même titre,
d'accord ? C'est considéré comme une perte. Mm. Bon. Intéressant. Ensuite, la Gemara continue et dit la chose suivante. Elle reprend ce qu'on a dit dans la Mishnah. D'accord ? Donc là, on a tourné la page. Ici.
Et on n'a pas attendu.
Ici, j'ai dit. On a dit dans la Mishnah. Matasak okupa. On a dit si une personne a trouvé, d'accord ? Un sac. Donc on a dit un sac, ça veut dire donc un panier, d'accord, sac au coupa, donc un panier ou une boîte. Le chol d'avar, chen d'arcolitol, est toute chose qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Ça veut dire que ça se fait pas de ramasser dans la rue. Arrêté le itol, je n'ai pas l'obligation de prendre. Là, accrochez-vous, parce que là, on va rentrer en tout en développement. Dans quel cas j'ai l'obligation de prendre une trouvaille, dans quel cas j'ai pas l'obligation.
Mais oui.
D'accord, c'est là que ça va se corser. Mena anemile. La Gemara pour une question toute simple, elle dit d'où tu sais. D'où tu sais que parce que ça me prend la tête de le faire, parce que c'est pas mon cavote de le faire, j'ai pas l'habitude de le faire, j'ai pas l'obligation de prendre. D'où on sait ? Nous on a toujours appris qu'une mitzvah on doit la faire même si ça nous prend la tête. Quelqu'un il dit ça me prend la tête.
Une mitzvah c'est que je suis obligé de ramasser la chose.
Mitzvah, c'est que je suis obligé. Là j'ai une mitzvah de ramasser l'objet, donc il faut le ramasser. C'est quoi cette histoire ? D'où me vient cette différence ?
Bah, c'est toujours valide ça.
Bien sûr.
Parce que je vais dire une chose, moi il m'arrivait des dizaines de fois où j'ai ramassé des trucs par terre. Je me suis fait déchirer par les proprios qui me disaient, mais je l'ai posé là, il avait une tête de truc perdu, tu vois. Et deux fois, trois fois, après,
je... Regardez, vous voulez que je raconte un cas ?
Je fais gaffe. Hein.
Semaine dernière, jeudi soir dernier. Non, vendredi matin. Mmh. Vendredi matin, je viens, je vois posé à côté du travail ici, là, dans le sous-bassement, si vous voulez, à côté de la porte, une boîte à lunettes avec des lunettes dedans.
Ouais.
Des lunettes Givenchy.
Bon, tu ramasses.
D'accord ? C'est là.
Givenchy, c'est ma femme.
D'accord ? C'est des lunettes qui étaient là.
D'accord.
Apparemment, il s'est là depuis jeudi soir.
Bon, donc il y a eu un cours jeudi soir.
D'accord ? Donc au début, je les ai pris. Après, je me suis dit, mais attends, peut-être qu'il l'a posé ici, qu'il va revenir pour le chercher.
Dans la rue.
D'accord ? Et il était posé.
Oui. Dans un... quelqu'un qui parlait, qui a répondu au téléphone.
Et il a posé.
Qui a oublié de les reprendre.
D'accord ?
Il avait les mains prises.
Donc du coup, on les a pris. Ils vont vous dire, c'est des choses qui arrivent, ça.
Mmh.
Les gens, mais là, c'était posé.
Oui, mais c'est sur la rue.
Ouais, mais c'était posé quand même.
Moi, je faisais des marchés il y a 35 ans, à Levallois.
Des gens qui oubliaient des choses.
Il y avait un mannequin complètement défoncé. C'était un mannequin sur son trépied, complètement déchiré. On n'était plus que 3 ou 4 forains, et c'est un forain qui présentait des vêtements. Tellement il était défoncé, il l'a abandonné. Donc je le prends et je le mets dans mon camion pendant que je faisais les voyages, quoi, ma petite camionnette. Quand je reviens, je trouve un type en furie. « C'est vous qui avez pris le mannequin ! C'est mon mannequin !» Oh là là. Puis, mais écoutez, il était posé dans la place de marché, tu vois, il n'y avait plus personne autour. Scandale. Ben, des fois, tu sais pas.
Bon, ok. On parle de statistiques générales. Alors, Agmara pose la question, dit « Mina Némilé, d'où tu sais ?» Tu me dis que toute chose qui n'est pas, que j'ai pas l'habitude de prendre, quand tu me dis que j'ai pas besoin de le prendre, d'où tu sais? C'est nouveau ce truc-là. Alors l'Agmara répond, elle dit, les Tanoura Banan, parce que le Chachamim m'a enseigné, et c'est écrit comme ça. Alors vous avez le Passouk, d'accord? On l'a déjà vu ce Passouk une fois.
Oui.
Prenez à la droite de la page. À droite de la page, ici là, non, vous prenez dans côté Gmara, droite de la page, Torah Or Hashalem, avec les Nekudot.
Oui.
Vous prenez le numéro bête. Il dit comme ça. L'otir et et charachicha. Tu n'as pas le droit de voir le taureau de ton ami. O et seyo, ou son agneau, ni dachim, perdu. Veit alam tameem, tu n'as pas le droit de les voir comme ça perdus et de les ignorer. D'accord? Achef te shivem lachicha, tu as l'obligation de les ramener. D'accord? Alors, ça c'est un verset qu'on a déjà développé plusieurs fois. Vous vous rappelez, on a développé qu'est-ce que ça veut dire le taureau, qu'est-ce que ça veut dire l'âne, pourquoi on a mis tous ces cas-là. Quand on a parlé du taureau, de l'âne et de l'agneau, bon, ça, c'est, on a déjà parlé de tout ça. Là, on va s'arrêter sur un autre point. Qu'est-ce qu'il dit le verset? Le verset, il dit, écoutez bien ma traduction. Tu n'as pas le droit de voir, d'accord, le taureau de ton frère ou son agneau perdu, d'accord, et tu les ignoreras. Tu devras les rendre à ton frère. Quand j'ai dit ici, et tu les ignoreras. Bien sûr qu'on a compris que dans le contexte, ça veut dire que j'ai pas le droit de les ignorer. Mais dans les faits, on a exprimé « et tu les ignoreras ». On n'aurait pas dû dire comme ça. On aurait dû dire « tu n'as pas le droit de les laisser comme ça, tu dois les rendre ». Pourquoi tu dis « tu n'as pas le droit de les laisser et tu les ignoreras, tu dois les rendre » Bien sûr que dans le contexte de la phrase, on a compris ce que tu voulais dire. Mais il n'y a rien qui est laissé au hasard dans la Torah. Quand il y a une phrase comme ça qui est un peu ambiguë ou imprécise, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et de là, regardez ce qu'ils apprennent les Chachamim. Donc on reprend l'explication.
Et donc tu chercheras à les ignorer, c'est ça que ça veut dire.
Voilà. Ça veut dire quoi? De là, les Chachamim disent,
Veit
alamta. Pourquoi le verset employé le terme et tu les ignores? Pour t'apprendre, Peamim shata mitalem. Des fois, tu as le droit d'ignorer. C'est pour ça que c'est fait exprès le jeu de mots de la Torah. Pour te dire, des fois, tu as le droit d'ignorer. Mais par contre, ou Peamim shata mitalem. Mais d'autres fois, tu n'as pas le droit d'ignorer. Aketsa, comment c'est possible? J'ignore ou j'ignore pas? Est-ce que j'ai le droit de passer d'ignorer? Alors, voilà la réponse. Ah, il y a Cohen. Si j'étais un Cohen, veillez bête avec Varot. Si je suis Cohen et je vois quelqu'un, il a perdu son portable dans un cimetière. Cohen ne peut pas rentrer dans un cimetière. D'accord? Ou bien, Oshaya Zakez et Nalefir Vodo. Ou si c'était un ancien, et que c'est pas de son kavod. Alors, en passant, une petite marloquette dans les Mefarchim, qu'est-ce que ça veut dire un Zaken? Quand on parle d'un ancien ici, de quoi on parle?
Un chacham dans la Torah ou un vieillard?
D'accord, est-ce qu'on parle d'un vieillard ou d'un chacham dans la Torah?
Si c'est un vieillard, il va ramasser un hocher, il va être idiot devant les gens, un hocher pour enfants. Alors c'est pire, on a encore un hocher.
Le Ramban et le Ritva expliquent que quand on parle ici d'un zaken, on parle d'un chacham.
Là oui.
D'accord? Parce que, qu'est-ce que dit la Gemara? Ezeu zaken shekana chokhma. C'est quoi un ancien? C'est celui qui a acquis la sagesse. Mais le Rambam, Maïmonide, explique que non. Il explique qu'un zaken, c'est aussi un vieux. Un vieux monsieur, un vieillard. Bon, petite parenthèse. Alors, donc si c'est un vieillard et que c'est pas de son kavod, d'accord? Oh, Shaita! Là, regardez ce cas-là, un cas qu'on va développer encore, parce que ça c'est un vice de procédure, ce cas-là. Oh, Shaita! Melacha shelo meruba michel chavero. Ou bien, si mon travail vaut plus que le travail de mon ami. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le temps que je vais perdre pour ramasser l'objet, je vais perdre de l'argent à cause de ça.
Je vais peut-être faire un détour, un machin. Ah oui.
Je dois faire un détour, je dois perdre de l'argent. Je suis en train de bosser maintenant. Dans ces cas-là, on va développer, attention, c'est pas si simple.
Oui, il y a des nuances.
Bon. Parce que là, les cartes Neymar, ça c'est écrit vite à l'âme ta mère. C'est pour ça que c'est écrit « Et tu les ignoras ». Donc vous avez compris comment on a joué avec le verset. On a dit « Puisque le verset dit « Tu n'as pas le droit de prendre et tu les ignoras », bien qu'on a compris que dans le contexte, ça veut dire qu'il ne faut pas les ignorer. Mais de là, on apprend qu'il y a certains cas où je peux ignorer. C'est quoi certains cas? On a donné trois exemples. On a donné l'exemple du Cohen, qui a trouvé de loin un objet dans un cimetière. Il a vu un objet dans un cimetière. On a donné l'exemple d'un ancien, d'un chacham, que c'est pas son kavod, et on a donné l'exemple de quelqu'un qui a plus de travail, que son travail vaut plus cher que ça.
Ouais, alors, j'ai pas compris ce sens de cette phrase, et tu les...
Ignoras.
Ignoras.
C'est le pshat.
Moi je comprends, non mais il peut y avoir plusieurs sens. C'est que toi tu vas chercher à les ignorer, et moi je te mets en garde, justement de ne pas...
je répète comment il dit le verset. Regardez bien comment il dit le verset. Voilà, le verset dit comme ça. Tu n'as pas le droit de voir... D'accord ? La perte, moi je ne vais pas réciter tous les cas, tu n'as pas le droit de voir la perte de ton ami,
ouais.
Et tu l'ignoreras, tu devras la rendre à ton ami. Est-ce que ça se dit en français ce que je viens de dire ?
Les temps ne sont pas bons,
c'est pas bon.
Ça se dit.
D'accord ? On aurait dû dire, et tu l'ignorerais, d'accord ? Ou bien, tu n'as pas le droit de voir la perte de ton ami et l'ignorer, mais ça ne se dit pas, et tu l'ignoreras.
Ouais.
Parce que quand tu dis à quelqu'un, et tu l'ignoreras, c'est presque un ordre, je suis en train de leur donner quelque chose. Alors que c'est pas bon. Je répète. Tu n'as pas le droit de voir la perte de ton ami, et tu l'ignoreras, tu devras lui rendre. Alors, je dois l'ignorer ou je dois lui rendre? On a compris que dans le contexte du verset, tu es en train de me dire qu'il faut la rendre. On a compris, ça. Mais le « et tu l'ignoreras », il passe pas, il y a un problème. C'est pas comme ça qu'on s'exprime. De là, on comprend que quoi, hein? On comprend que la Torah a voulu nous faire un remez, une allusion. Que pour te dire que dans certains cas, tu as le droit d'ignorer. Voilà d'où les trois exemples qu'on a donnés, mais qu'on va développer, c'est pas attention, hein. Bon. Alors la Gemara, elle pose une question suivante, elle pose une question très simple. Elle dit, tu m'as donné trois exemples, je vais les décortiquer un par un. Le maïs tarikra. À quoi me sert ton pasouk? Ton pasouk qui m'a dit, rappelez-vous, que certains cas, on peut ignorer. Il est ma, si tu vas me dire qu'on a besoin de ce pasouk, les Kohen, Zéhi, Bevet, Akvarot. Si tu vas me dire qu'on a besoin de ce pasouk pour le cas d'un Kohen qui a trouvé quelque chose dans un cimetière, ça veut dire que de loin, il le voit dans un cimetière. Pshita, c'est évident. Et j'ai pas besoin d'un pasouk pour me le dire.
C'est la parole.
D'accord, pourquoi c'est évident, hein? On va expliquer juridiquement comment ça marche. Hai, l'obligation de rendre une trouvaille, c'est une mitzvah qui est assez. C'est une mitzvah positive. D'accord? Où c'est écrit une mitzvah positive? Voilà, on reprend le pasouk bête, le verset que je vous montrais tout à l'heure. Les trois derniers mots du verset, c'était quoi? Achev teshivem leachicha. Tu devras les rendre à ton frère. Donc voilà, j'ai un ordre ici. Donc c'est une mitzvah positive. Et d'un autre côté, l'interdiction de Cohen de rentrer dans un cimetière, vehai, alors que l'interdiction de rentrer dans un cimetière, c'est lota assez, va assez. C'est une interdiction négative, une interdiction positive. Alors, où c'est l'interdiction négative? C'est, bon, on la trouvera pas à côté, mais je vais vous la dire. C'est dans la paracha vaikra, on dit comme ça, on dit, l'interdiction négative, c'est quand on dit les nefesh lo itama behamav, on dit que le Cohen n'a pas le droit de s'impurifier, avec, donc, dans un cimetière. Ça, c'est premièrement. Et le deuxième verset, c'est le verset qui dit Kedoshim yu lelokem. C'est le verset qui dit qu'on a l'obligation de un Kohen a l'obligation de rester sacré. Donc combien j'ai d'interdictions ici, monsieur Bismuth? Combien j'ai de mitzvot?
Deux.
Donc quand j'ai un match entre d'un côté une mitzvah positive, d'accord, et de l'autre côté une mitzvah positive et négative, laquelle elle passe avant?
La doublette.
La doublette, c'est sûr. Ouais. Donc est-ce que j'ai besoin d'un passouk pour apprendre que le Kohen n'a pas le droit d'entrer dans le cimetière? Ben non, c'est évident. Vous suivez?
Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu... Et il y aurait eu bataille, alors. Disons qu'il n'y aurait pas eu le...
Alors, oui.
Disons qu'il y aurait eu une
seule. Ah oui, alors, s'il y a eu une seule, on va voir tout de suite. S'il y a une seule et une seule, on va voir tout de suite. C'est une très bonne question ce que vous posez. La Gemara va parler de ça juste. Donc, ve lo ate ase, ve dachet tot ase. Une mitzvah positive ne peut pas repousser une mitzvah positive et négative. On est d'accord, monsieur Daniel? Très bien. Ve tout. Deuxièmement.
Et les deux positifs s'annulent et reste que la négative.
Non.
On peut faire comme ça, non? On peut dire comme
non,
ça.
Non, non, elle reste toute vivante.
Non. Non, on va voir tout de suite.
Non, mais dans l'équilibre.
Vetou, encore, deuxièmement. D'accord? Deuxièmement, le dit la Gemara. L'odachinan, isura mikame mamona. On ne repousse jamais une interdiction à cause de l'argent. C'est-à-dire comme ça, par exemple. La Torah nous a donné une mitzvah positive de faire la mila. D'un autre côté, la Torah nous a donné une mitzvah négative qu'on n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Dans les faits, quand le huitième jour arrive Shabbat, est-ce qu'on fait la mila?
Bien sûr.
Ouais. Bien sûr. Pourquoi?
Parce que
une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. D'accord? Dans le cas où c'est un, comment on appelle ça? dans le cas où c'est
de la nature, non?
Où c'est une dans le cas où c'est une mitzvah de la Torah. D'accord?
Ça peut être des deux cas,
mitzvah oui. de la Torah. Oui. Dans le cas où c'est une mitzvah de la Torah. Alors regardez bien ce qu'on va dire ici. Alors, là, ce qui va nous prendre les Chachamim, on va nous apprendre quelque chose de très important. On va nous apprendre qu'on ne repousse jamais une interdiction à cause d'une perte d'argent. Vous suivez? On ne repousse jamais une interdiction à cause d'une perte d'argent. Donc, il est évident que le Kohen, d'accord? Le Kohen, quand il va rentrer au cimetière, c'est quoi l'enjeu ici? C'est un enjeu financier.
Ouais.
Parce qu'il va récupérer une perte pour quelqu'un, donc il va gagner. C'est pas pour, l'argent n'est pas pour lui, l'argent est pour quelqu'un d'autre. Très bien. On a un principe qu'on ne repousse jamais une interdiction pour de l'argent.
Et lui, qu'est-ce qu'il va gagner?
Très bien. On repousse jamais une interdiction pour de l'argent. Ça veut dire, on peut repousser un interdit. On peut repousser un interdit pour une autre mitzvah. Comme ce que je vous ai dit par exemple. On peut repousser l'interdit on peut repousser l'interdit de transiter Shabbat pour la Mila. Mais on n'a pas le droit de repousser un interdit pour de l'argent. Vous suivez?
C'est clair, c'est même pour ça qu'on n'ouvre pas un magasin.
Très bien. Donc ici, d'accord. Ici, c'est évident que le Kohen, de toutes les façons, ne peut pas rentrer au cimetière. Puisque c'est pour de l'argent. L'enjeu, même si c'est pas son argent, c'est l'argent de quelqu'un d'autre.
C'est de l'argent. C'est un postulat que c'est de l'argent. Ça peut très bien être une mallette avec des médicaments, que c'est à quelqu'un que je connais, s'il a pas ses médicaments ce soir, il peut mourir.
Très bien.
Alors?
C'est autre chose, c'est plus Kohen Nefesh là.
Oui, mais là on sait pas.
Non, on parle d'un cas normalement.
Un cas normalement, il faut qu'il arrive pour savoir si c'est de l'argent.
Un cas normal.
Est-ce qu'il y a une affiche où il y a écrit il y a une valise avec 50 000 francs dedans?
Cas standard, monsieur Bispo, vous cherchez encore une fois les cas. Un cas standard, une trouvaille, c'est de l'argent. C'est pas des médicaments. C'est quand la dernière fois que vous avez trouvé une valise avec des médicaments? Un cas standard, des choses on en trouve tous les jours, des choses, on trouve des choses par terre.
Et moi je rejette parce que c'est pas son argent, donc c'est comme s'il avait rien trouvé.
Très bien.
Cet argent-là, il va le restituer.
Mais dans les faits.
Il est pas concerné.
Bon, très bien. Donc.
Qu'est-ce qu'il faut voir?
Donc, il n'y a pas de problème
d'argent. Donc, vous voulez dire quoi par là, donc?
Il rentre pas de toute façon.
Exactement.
Donc?
Il ne peut pas rentrer.
C'est vrai, il ne peut pas rentrer.
Il n'y a aucune raison pour qu'il rentre dans le cimetière.
La Gemara nous amène deux preuves pour lesquelles, de toutes les façons, il ne peut pas rentrer dans le cimetière. Pour nous dire qu'on n'a pas besoin de pasouk pour ça. De pasouk vite à l'amta. Première preuve que la Gemara nous amène, c'est le fait que l'interdit de rentrer dans le cimetière, c'est une négative et une positive. Alors que l'obligation de rendre une trouvaille, c'est une positive. Donc une positive ne peut pas repousser une négative et une positive. Ça, c'est une première preuve. Deuxième preuve, c'est qu'ici, l'enjeu est financier. Et un enjeu financier ne repousse jamais une interdiction. C'est un clal, c'est un principe qu'on a. Un enjeu financier ne repousse jamais une interdiction. Par exemple, je voulais que je vous donne un exemple. Voilà. J'ai une mitzvah de donner à Tzedaka. C'est positif, oui?
Ouais.
Très bien. Je vais aller voler de l'argent pour ça.
Oui.
Négatif. D'accord? C'est pas pour moi, comme vous dites, c'est pour l'autre. Je vais voler de l'argent pour donner de la Tzedaka à quelqu'un. Tu m'as dit que la Mila, tu m'as dit que pour la Mila, une mitzvah positive repousse une mitzvah négative. Alors voilà! La mitzvah positive donnée la tzedaka, elle va repousser la mitzvah négative de voler. Ça marche pas ça. Pourquoi? Parce qu'on ne repousse jamais un interdit à cause de l'argent. Vous voyez? Bon. Alors, hélas, donc après.
J'entends par argent. Profit.
Profit.
Ça peut être autre chose que de l'argent.
Oui, bien sûr.
Mais si c'était pas de l'argent, ça repousserait?
Si c'était pas pour une valeur, d'accord, oui, ça peut repousser. Voilà, comme la Mila. La Mila, c'est pas de l'argent.
Il n'y a pas d'autre cas à part le...
On en trouvera.
Non, il y a deux possibilités. Soit c'est une valeur financière, soit c'est matériel, soit c'est spirituel. Voilà, c'est un autre terme. Si c'est matériel, c'est pour gagner quelque chose. C'est un intérêt matériel, c'est assourd. Ouais. Et si c'est un intérêt spirituel, d'accord, ben là, c'est... Voilà, par exemple, quelqu'un va vous dire c'est une mitzvah de manger Shabbat. Alors je vais cuire. On peut pas. C'est un intérêt gâchemi, c'est un intérêt matériel. Vous comprenez tout c'est le principe. Ok. Alors.
Et quelqu'un qui veut prendre la voiture pour aller à la synagogue, parce qu'il habite
pareil,
à la synagogue.
Pareil.
C'est quoi l'intérêt?
C'est un intérêt matériel.
Non, il est spirituel, pourquoi matériel?
Non, c'est un intérêt matériel.
Il va à la synagogue pour prier, c'est spirituel.
Oui, mais c'est un intérêt matériel.
Pourquoi matériel?
Parce que la Torah t'a pas donné l'ordre de prendre la voiture. La Torah t'a donné l'ordre d'aller à la synagogue.
Bah, tu peux prendre l'avion après. Hein.
Vous comprenez? Ouais. Dans la Mila, la Torah va donner l'ordre de faire la Mila.
Ouais.
C'est la même chose. Alors. Vous comprenez la nuance?
Et à la limite, la Torah t'a même pas obligé à aller à la synagogue.
La Torah m'a donné l'ordre de faire la Mila. Mais la Torah m'a pas donné l'ordre de prendre la voiture pour aller à la synagogue. Très bien. Donc c'est une facilité que j'ai voulu prendre. La Gemara continue avec la chose suivante. Donc on a une question. Je rappelle, on a une question. Puisqu'on a dit, tu m'as dit qu'on a besoin du pasouk Veit Alamta pour m'apprendre trois choses. On a dit trois cas, on l'a donné. Le Kohen dans le cimetière. C'est quoi le deuxième cas? C'est le Zaken, c'est pas son Kavod. Et le troisième cas, c'est quoi? C'est si... C'est quoi le troisième cas?
C'est un Kohen, il trouve un...
Non, non, ça c'est le premier cas. Troisième cas, c'est quoi?
L'oseille.
C'est quand le fait de récupérer la trouvaille, je vais perdre plus d'argent que ce que je vais récupérer.
Allez, tu roules en voiture, t'as un rendez-vous d'affaires très important, et puis d'un seul coup tu vas sur le bas-côté, tu dois refaire 4 km en marche arrière.
Voilà.
Tu dis, je vais mettre une heure pour revenir.
C'est qu'on dit comme ça. Alors, la Gemara pose la question, te dit, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Tu m'as dit que j'ai le pasouk Veit Alamta. Alors, on va essayer de le développer ensemble. Tu m'as dit, premier cas, c'est le Kohen dans un cimetière. Le Kohen qui voit dans un cimetière une trouvaille. J'ai pas besoin de pasouk pour ça, puisque sans pasouk, je me serais débrouillé, on est d'accord? Mmh. Avec les deux preuves qu'on a dit. Donc on va essayer le deuxième cas. Et là, seulement, ok, je vais te dire, c'est quoi le deuxième cas? D'accord? C'est quoi le deuxième cas? Ouais.
Parce que je les vois dans les choules traîner dans les carrelages, et là c'est magnifique ce système. Vous l'avez trouvé comment?
Ah, je t'en prie.
On l'a vendu avec.
Non, c'est vrai?
Bah oui. Mais c'était pas un cadeau en plus.
Et là seulement, ça. L'échelo, Meroubé, Michel Ravero. Alors, on va parler du troisième cas directement. C'est quoi le troisième cas? Le troisième cas, on l'a dit, c'est quand ma perte va être plus que la perte de mon ami. Ça veut dire que quand moi je vais aller pour ramasser sa petite valise qu'il a perdue, moi je vais perdre une grosse somme. Là, dans ce cas-là, on pose la même question, on dit non. On dit, mais des Ravida Marav Nafka, j'ai toujours pas besoin de ton pasouk pour ça. Sans le pasouk Vita Lamta, je me suis débrouillé. Je sais ça de ce que Rav Yehuda a dit au nom de Rav. Qu'est-ce qu'a dit Rav Yehuda au nom de Rav? Ah, Marav Yehuda, Marav, Rav Yehuda, dit l'on de Rav, écoutez bien ce qui est écrit. Efet, kilo yevecha evyot. Il y a un pasouk qui dit que, il ne faut pas qu'il y ait chez nous de pauvres. Et de là, qu'est-ce qu'il a appris? De là, qu'est-ce qu'il a appris, Rav Yehuda, Marav, au nom de Rav? Il a appris que quand on dit Efet, le yevecha evyot, on apprend qu'une personne a l'obligation de s'assurer qu'il n'arrive pas à la pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour ne pas devenir pauvre.
Mortel.
D'accord?
La pauvreté, c'est mortel.
Il faut tout faire pour ne pas devenir pauvre. Donc, de là on apprend, nous dit Rav Yehuda, au nom de Rav, que Shelcha Kodem Shel Kol Adam, que ta parnassa passe avant tout le monde. Donc, est-ce qu'on a besoin du pasuk Veit Alamta? Non. Puisque de toutes les façons, on savait déjà que ma parnassa passe avant la trouvaille. D'où on le sait? On le sait de ce que Rav Yehuda a dit. Du pasuk et fais ce qu'il y a Yevchaviod. Du pasuk que la Torah nous dit que il ne faut pas se comporter de manière qu'il y ait un pauvre chez nous. Donc, est-ce qu'on a besoin de pasuk Veit Alamta, M. Daniel?
Il dit non, mais je suis perdu.
Je répète.
Mais oui, c'était le troisième cas.
On a dit, la Torah, rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah a dit, tu n'as pas le droit de voir un objet et tu l'ignoreras, tu devras le rendre. Il y a un problème dans la sémantique de ma phrase.
Oui.
Donc, quand on a dit et tu l'ignoreras, de là on a appris que dans certains cas, il faut ignorer. Bon, on a donné trois cas. Le premier cas qu'on a dit, c'est le Kohen qui trouve quelque chose de loin dans un cimetière. Mais ça, on a dit qu'on n'a pas besoin de pasouk pour ça. Puisque de toute façon, sans pasouk, on l'aura appris de nous-mêmes. On est d'accord? Très bien. Troisième cas qu'on a dit, c'est quoi? Troisième cas qu'on a dit, c'est... Oui, je vais te dire de quoi on parle. D'accord? Si c'est à cause de ça, tu vas perdre ta parnassa. Voilà pourquoi le pasouk a dit Veit Alamta. Je dis, mais ça, j'ai pas besoin de ce pasouk. Parce que ça, c'est une règle générale dans la Torah. Que ma parnassa passe avant tout. Oui? Donc, puisque c'est une règle générale dans la Torah, est-ce que j'ai besoin du pasouk Veit Alamta? Non, j'ai pas besoin, puisque de toute façon, je le savais, c'est une règle générale dans la Torah. Et là, seulement, nous dit la Gemara, hein, les Zaken venant le Firvodo. En vérité, qu'est-ce qui est venu m'apprendre le pasouk? Le pasouk est venu m'apprendre le cas de Zaken venant le Firvodo.
Ah!
D'accord?
Ça veut donc dire. Donc, le reste, c'était l'emballage.
Voilà. Quand c'est un ancien, et que c'est pas son kavod de ramasser. Et là, dans ce cas-là, quand la Torah dit Veit Alamta, tu l'ignoreras, et qu'elle veut te faire comprendre que dans certains cas, il faut l'ignorer. De quel cas elle parlait, en vérité, la Torah?
Ah, c'est un Zaken.
Elle parlait du cas du Zaken. Et ce cas-là, on l'aurait appris de nulle part. Donc, comme a dit M. Bismuth, puisqu'on a déjà dit ce cas, donc on a rajouté les autres cas, du Cohen, etc. Mais en vérité, c'est de l'emballage, tout ça.
Il aurait pu dire aussi Shabbat. Une trouvaille Shabbat, ça va, on savait que on n'avait pas besoin, quoi.
Non, voilà, Shabbat, exactement. Shabbat, c'est évident.
C'est évident, tu vois, on aurait pu donner un exemple
de ça aussi. Là, on a cherché des exemples plus piquants, tu vois, comme le Kohen qui va entrer dans un cimetière. Ou... Par exemple, le Kohen qui voit une chose dans un cimetière, j'aurais pu lui demander peut-être d'envoyer quelqu'un pour le chercher.
Oui, j'ai pensé à ça. Oui. On prend une perche très longue.
D'accord. J'aurais pu lui prendre la tête.
Je le vois là-bas.
C'est vraiment, vraiment, c'est
Et c'est là le principe. Le principe.
Ouais, attends, je vais tuer ma sœur.
Le principe, il est là. Regardez, le principe, il est très simple. Le principe, il est pour, en général dans une trouvaille. On dit que ce que je me serais pas pris la tête pour moi, je me prends pas la tête pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire le Cohen, il serait pas pris la tête parce que c'est fini. Il a rien à faire dans le cimetière.
Mais si c'est un sadique et il dit, c'est pour moi, je l'aurais pas fait. Mais pour les autres,
c'est plus important. Attention, que moi. S'il veut le faire, il peut le faire. Mais il n'est pas obligé. Il y en a qui ont essayé.
Tu vas le tuer. Vous pouvez les faire.
Alors, attention, c'est une mitzvah. Hein. C'est toujours une mitzvah. Alors.
Donc ça veut dire que si c'est pas le cas d'un zaken, que on lui donne cette permission, pour toutes les autres personnes, elles sont obligées de...
Attendez, mais on a...
Non, c'est-à-dire que c'était
on a appris un autre vice de procédure aujourd'hui. On a appris un autre vice de procédure que quand ma parnassa risque d'être atteinte, eh ben je peux ignorer. On va devoir développer ça, parce que ça, tout le monde va dire ma parnassa, le temps, c'est de l'argent, comme ils disent en Amérique. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va développer, parce que ça, c'est pas simple.
Time is money.
Yeah.
Oui. Infobig. Alors. Quelqu'un essaie de téléphoner. C'est pas normal.
Comme ça, ils disent en Amérique. En Amérique, vous savez, ils prennent tous des taxis et tout, et ça coûte cher. Ils disent, c'est pas grave, le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Daniel? Le temps, c'est de l'argent?
Amrek.
Hein?
Amrek.
Quoi?
Amrek.
America Amrek.
C'est un peuple vide.
C'est Rabinovitch, ça?
Bien sûr. Le nom, c'est l'essence.
Alors. Amar Rabba. Rabba a dit la chose suivante.
Je dis le temps, c'est de la Torah.
D'accord? Amar Rabba, Rabba a dit la chose suivante. Donc, rappelez-vous ce qu'on a dit. On a dit qu'un ancien qui a vu un animal, par exemple, et que c'est pas son cavote de le ramasser. Oui, monsieur Bismuth?
Ouais.
Si c'est pas son cavot de le ramasser, qu'est-ce qu'on a dit? D'accord? On a dit qu'il peut le laisser. On est d'accord? Oui? Encore une fois. Qu'est-ce qu'on a dit? La conclusion qu'on arrive, c'est que si un ancien est en train de marcher dans la rue, et il voit un truc que c'est pas son cavot de ramasser, est-ce qu'il doit le ramasser?
Non.
Non. Très bien. Alors imaginez-vous que c'est un animal. Imaginez-vous que c'est un petit animal, un petit caniche comme ça. Ouais. Donc le zaken, c'est pas son cavot de ramasser un caniche. Il a rien à faire avec un caniche. D'accord? Donc, il n'a pas l'obligation de le ramasser.
Et s'il voit un chamir par terre.
Alors, regardez ce qu'il dit Rabba.
Ou un khalazon.
Amar Rabba.
Un khilazon.
Ikisha. Ikisha.
D'accord. Ah oui.
Alors, celui-là. Rabba a dit la chaussure. 30B1.
Ça y est, tu t'as passé là. Ah, oui. Parce qu'on est fini avec un mais ici.
Mais. Amar Rabba. Rabba a dit la chose suivante. La Gemara, ça commence par le parent. Ouais. Rabba a dit la chose suivante. Ikisha. Même si c'est un cas où je n'ai pas l'obligation de rendre l'objet, donc pas comme le zaken, il n'a pas l'obligation de prendre l'objet, mais Ikisha, s'il a poussé un petit peu de son bâton l'animal, donc il l'a déplacé un petit peu, même si à la base il n'avait pas l'obligation de le prendre, parce que c'est pas son kavod, Chayavba, c'est fini, il a l'obligation de le rendre. Pourquoi? Puisque le principe qu'on a, comme Rashi explique, c'est que puisqu'il a démarré la mitzvah, il a l'obligation de la finir. Là, c'est un principe qu'on a en vérité dans toutes les mitzvot, que lorsqu'on commence une mitzvah, il faut la finir. Bon. Et la Gemara nous raconte une histoire, elle nous dit que Abaye...
Enfin, c'est un peu litigieux comme ça. Parce que lui, son intention, c'est de le pousser, c'est pas de le
pourquoi il a poussé?
Bah, parce qu'il le gêne. Et il est sur son passage, il veut continuer sa route. Mais lui, son intention, c'est pas du tout de prendre l'animal.
Justement.
Pourquoi on se base pas sur ça?
Dis-moi,
je vais vous dire plus que ça. Là maintenant, j'ai dit l'exemple que la Gemara a dit, c'est si on l'a poussé. Mais sachez que le Ramar, d'accord? Le Ramar, il va encore plus loin que ça. Et il dit que même si j'ai conduit la bête par ma voix.
Là, il y a une mode de terre, carrément.
Attendez. Ah, ça a pris la mode de terre. Ou bien, d'accord? Même si je lui jetais une petite pierre et qu'elle a bougé, j'ai jeté une pierre. Enfin, je l'ai même pas touché, j'ai jeté une pierre et elle a sauté pour le prendre. Lui, qu'est-ce qu'il te dit? Comme j'ai eu un contact avec l'animal, dès que j'ai un contact avec l'objet, j'ai l'obligation de finir la mitzvah.
Bon, je veux du même savoir d'où ça vient cette histoire de finir la mitzvah.
Moi, je trouve pas de logique.
Attends, c'est bien beau, on sort un postulat là. Il est où ce postulat?
Il y a un principe. De quoi?
D'abord, on dit que c'est commencer une mitzvah. Je vois pas où est-ce que c'est commander une mitzvah. Qu'il y a un chien errant, on lui fait. Ouais. J'ai commencé quoi, j'ai pris part à vouloir
faire la mitzvah. Donc là, je suis d'accord, faut la terminer.
Histoire de commencer une mitzvah.
Mais là, ça n'a pas commencé.
Il y a plusieurs. Je vais vous expliquer ce qu'ils disent les Mefarchim.
C'est un peu dur là.
D'accord. Je vais expliquer ce qu'ils disent les Mefarchim.
Ça n'a pas commencé.
D'accord. Il y a un commentaire qui s'appelle le Levush Yesha qui explique sur les paroles de Rashi. Lui, il dit qu'il a compris. Rashi ne l'a pas dit explicitement. Lui, il a compris les paroles de Rashi, qu'on est obligé de dire, qu'on parle ici, que quand il a bougé l'animal dans l'intention de le rendre. Et qu'après, il se dit, bon, c'est pas mon kavod. D'accord? Parce que oui, attendez, tout, voilà. n'oubliez pas que... Mettez-vous dans la tête. Un ancien, il a un bâton, il marche avec une canne. D'accord? Donc il a envie de ramener l'animal chez lui à la maison, il prend avec sa canne et il pousse un petit peu.
Vous donnez la réponse.
D'accord? Attendez. Ça, c'est une première réponse.
Il peut seulement vouloir voir le tatouage ou le marquage de l'animal pour savoir à qui il est.
Donc, il s'en est occupé.
Oui, mais seulement pour voir si c'est
fini. Ça, c'est fini. Le pneu Yoshua, il va plus loin que ça.
C'est fini.
D'accord.
Il avait l'intention au départ.
Ouais, le mec qui regarde la pièce d'identité, bah, tu vas le prendre.
Le pneu Yoshua, il va...
Qui ont essayé.
Le pneu Yoshua, il va encore plus loin que ça. Il dit que, puisque le vieux a commencé à toucher un petit peu l'animal, un animal qui n'est pas de son kavod, n'oubliez pas que c'est peut-être un chacham, hein, ce gars. Mm. Donc, il montre avec ça qu'il est mochel sur son kavod.
Bon.
Vous allez voir, on va comprendre tout avec l'histoire qu'on va
dire. C'est pas ma question.
Oui.
Ma question, c'était, où est-ce qu'on a vu que quand on commence une mitzvah, si on veut appeler ça une mitzvah, on est obligé de la terminer.
Ah, c'est un principe qu'on voit avec Pinchas. Avec Pinchas, comme Moshe Rabbeinu l'a dit, puisque tu as commencé la mitzvah, tu dois la terminer.
Pour quand il a tué l'autre.
Ouais, c'est un principe qu'on a, ça. Que quand on commence une mitzvah...
Attends, il avait déjà terminé.
Non. Il n'est pas terminé, il est venu pour un...
Oui, mais attends, là-bas, il y avait un cas, c'était Messirut Nefesh, grave de chez grave.
Attends,
Hachem, il allait nous détruire.
Bon, ça, c'est de la HKF, ce que vous faites.
Tandis que là...
Qu'on doit voir à là. Allez.
Tandis que là, je vois la gravité de ramener une chèvre à...
Bon, qu'il en soit, il a commencé la mitzvah, il faut la finir. C'est un principe qu'on a chez nous, c'est tout. Abaye, Abayatif, Kamé, Deraba. Deraba. Abaye était assis devant Rabba. Chaza, Léanar, Isé, de Kaimou. Donc Abaye était assis devant Rabba. Et il a vu, les anars, ils étaient des caïmous. Ils ont vu des chèvres qui étaient stationnaires, qui ne faisaient rien du tout. D'accord ? Je suis avec M. Bismuth ?
Moi, j'aime pas voir
d'accord.
Le...
Ah, d'accord. Chakal Kala, Oujdabaou. Il a pris un morceau de terre.
Réfouacher les mains.
D'accord ?
Moi, j'aime pas voir le...
Il sait de quoi je parle. Il a pris un morceau de terre.
Je te souhaite que tu vas aimer...
Véchadabaou.
Lire les textes.
Et il l'a jeté. Attends. Vous écoutez ?
J'aime pas voir, c'est la traduction. D'accord.
Oui, parce qu'après, ça l'embrouille. Ouais. Alors, il a pris un morceau, il a pris un peu de terre, d'accord, et il l'a jeté sur l'animal. Vous savez, à l'époque, on faisait comme ça aussi quand on voulait faire déplacer l'animal.
Son intention, c'était pas du tout de...
Alors, si.
De s'approprier.
Qu'est-ce qu'il lui a dit? Amarlé, Rabba a dit à Abaye, Itrayavt Baou. Puisque tu as commencé à t'en prendre à l'animal, comme ce qu'a dit le pneu Yoshua, en vérité, ce que dit le pneu Yoshua, c'est très très logique, ce qu'a dit. Le pneu Yoshua dit la logique suivante. Le choix, comme je vous ai dit, il a dit que normalement, si tu me dis que c'est pas ton kavod, alors tu dois même pas le toucher, rien à faire avec lui. Le fait que tu as montré que tu peux un peu jouer avec lui ou le déplacer, ça veut dire que tu as montré que c'est quelque part ton kavod, que ça te dérange pas vraiment. Alors si ça te dérange pas vraiment, tu n'as aucune excuse pour ne pas prendre l'objet.
Et s'il est sur notre route, il nous gêne. Et on lui dit, sors de là.
Ouais. Pousse-toi de là, je passe. Ah, tu l'as touché.
Alors, on va dire, non, mais...
On parle pas de ça, on parle pas, voilà, je vous l'ai dit, que ce qu'il dit le pneu,
je vous l'ai dit, le boucher. Même par la bouche, le fait de lui dire...
Oui, mais dans la bouche, mais d'une manière que je... C'est ça dépend, il y a joué. Il y a celui qui dit, si tu déplaces, bouge-toi, je dois passer, on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui se met un petit peu à jouer avec l'animal. Donc il montre que ça le dérange pas.
Il lance une balle.
D'accord, voilà, il lance une balle.
Mais là, c'est pas le cas.
Si.
Pour les chèvres, là.
Il était assis à côté de Rabba, il s'est assis. Et il voit de loin des chèvres qui sont stationnaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de terre et il leur jette devant.
C'est pour jouer avec elle?
Oui, pour jouer. Donc il a joué. Donc il a montré que même si c'est un grand rabbin, mais ça ne le dérange pas de jouer avec une chèvre. Donc puisque ça ne te dérange pas de jouer avec une chèvre, tu n'es plus exempt de rendre la mitzvah.
Bon.
La seule raison pour laquelle tu étais exempté, c'est quoi? C'est parce que c'était pas ton kavod. Mais là que tu as joué avec, tu as montré que ça ne te dérange pas.
Fais gaffe si tu rencontres des chèvres.
Moi je pense que ce qui prime c'est l'intention de la personne.
Tu dois l'emmener à l'argent.
Oui, avec moi, c'est pas l'action. Voilà, l'action c'est une chose, mais c'est l'intention.
Il n'y a pas que l'intention.
Qu'est-ce que la personne, quelle est son intention vis-à-vis de l'animal?
Non.
S'il est négatif.
Encore une fois, je répète. La seule raison pour laquelle on a rendu le vieux, on a dit que le vieux il est quitte, d'accord? Parce que pour le vieux il est quitte, la seule raison qu'on a dit c'est quoi? On a dit parce que c'est pas son kavod. Parce qu'il est gêné, ça ne se fait pas. Mais puisqu'il a montré qu'il est capable de jouer avec l'animal, donc de là il a montré que ça ne le dérange pas. Que son kavod, ben c'est pas si grave que ça. Donc du coup, d'accord, vous verrez dans les notes d'Avec, il y a des notes là. Donc du coup, il a l'obligation de le prendre. La Gemara pose la question suivante. Ibaya elle est où? Les sages de la Gemara ont eu la question suivante. Darko la Khazir, Besade. Si on a affaire avec un vieux très particulier, vous savez, les vieux toujours, ils ont des choses très particulières. Regardez ce vieux qu'on va voir en faire. Si on a un vieux que Darko la Khazir Besade, il a l'habitude de rendre l'objet dans un champ. C'est quelqu'un qui travaille dans les champs, c'est un agriculteur. Et il a l'habitude de rendre les choses dans le champ. C'est-à-dire que dès qu'il trouve quelque chose dans le champ, il ramène le propriétaire. Vous savez comment c'était les champs à l'époque? Les champs à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Les champs à l'époque, c'était, on allait dans une vallée, c'était des vallées qui étaient à l'extérieur de la ville. Et ces vallées-là, dans ces vallées, il y avait des morceaux de terrain qui appartenaient à beaucoup de monde. D'accord? Oui? C'était avec nous, oui? Allez, posez les portables, posez les portables. Reste 10 minutes encore.
Ils sont posés.
Hein?
La tête, là.
Vous savez, le rabbi de Gour, il est venu en Amérique la semaine dernière. Il est resté 4-5 jours pour voir ses chassidim. Et une des choses qu'il leur a dit, le téléphone portable, c'est le Yitzhara de la génération.
Grave.
Il est insupportable.
Et il se gourre pas.
Il a dit comme ça. Et il est parti là-bas, vous savez pourquoi il est parti? Il est parti là-bas pour essayer de voir avec les opérateurs. Ils sont en train de voir une manière de faire des forfaits.
Mais il y a des trucs comme ça,
je donne, tu sais quoi. Oui, en Israël il y a déjà, mais en Amérique ils n'ont pas encore. Pour faire des forfaits cachers. Forfaits cachers, ça veut dire que...
On n'envoie pas le samedi.
Ça pourrait être sûr de ne pas recevoir des SMS bizarres et de ne pas pouvoir aller sur Internet, etc.
D'accord, mais il y a Picoir Nefesh peut-être.
De quoi? D'aller sur Internet avec le portable.
Non, pas Internet, ouais. Mais envoyer un SMS. Il y a des docteurs qui vont avec des appareils.
Bon, alors c'est un docteur, on va parler des docteurs maintenant, on parle des Bachouri
Yeshiva. Ça veut donc dire qu'on doit pouvoir l'appeler, le docteur.
On parle des Bachouri Yeshiva qui ont Internet. D'accord. Dans leur chambre. D'accord. Vous comprenez?
C'est pas normal.
Il a dit c'est Yitzhara la génération. Bon, donc il faut poser les portables. Alors.
J'étais heureux à New York quand j'avais pas mon portable. C'est incroyable ce que j'ai fait. Pendant 5 jours, pas de portable.
C'est génial.
Pas d'angoisse.
Donc, il va y aller où? On a posé la question suivante au Khami. Darko la Khazir. Si une personne a l'habitude, d'accord, de rendre une trouvaille bessadée dans le champ. Donc on a affaire avec un vieux qui, comme je vous ai dit, à l'époque, c'était des vallées qui étaient à l'extérieur de la ville. Et dans ces vallées, il y avait des morceaux de terrain qui avaient beaucoup de propriétaires. Donc si c'est un vieux qui a l'habitude, lorsqu'il rentre de chez lui, lorsqu'il rentre de son champ à chez lui, s'il voit quelque chose par terre et qu'il sait que ça appartient à un propriétaire, il lui ramène. Il a pris l'habitude de ramener, ça ne le dérange pas. Mais, d'accord, V'en Darko la Khazir Bayir, mais il est gêné de ramasser des objets dans la ville. Ça se fait pas, c'est pas son cavode. Vous voyez le vieux
planqué,
qu'on a
fait. C'est bon.
Ça veut dire tant que c'est planqué, c'est dans un champ comme ça, ça ne dérange pas.
Dans la ville, mais pas dans les champs.
Mais quand c'est dans les. Mais quand c'est dans les champs, quand c'est dans la ville, qu'il y a du monde qui le regarde, oui, il est gêné.
Il a fait gaffe, le bonhomme quand même.
Hein. D'accord, un petit peu, bon.
Je veux pas qu'on me voit ramasser des trucs.
Mahou, quel est le din?
C'est ça le cabonne, il a.
D'accord.
Raison.
Ça?
C'est le cabonne.
Très bien.
C'est que les gens ne voient pas.
Mahou, quel est le din? Écoutez bien la logique de la Gemara. Miyam Rinan, est-ce qu'on va dire que Ashava Ma'alia Bainan, lorsque la Torah nous demande de rendre un objet. De quoi elle parle? Ashava Ma'alia Bainan, la Torah nous demande de rendre l'objet comme il faut. Elle ne nous demande pas de faire les choses à moitié. Donc, Vekevan de l'Avdarke, la Khazir Bayir, puisque lui, il n'a pas l'habitude de rendre dans la ville un objet, Loli Khayav, il n'a pas l'obligation.
On va choisir.
D'accord? Hein. Donc, première hypothèse de la Gemara, de dire que si ce vieux-là n'a pas l'habitude de rendre dans la ville, on le laisse tranquille. Pourquoi on le laisse tranquille? Puisque la Torah te demande d'être à l'aise avec ce que tu fais. Et puisque lui, il n'est pas à l'aise de le faire dans la ville, donc il ne va pas le rendre de manière à l'aise au propriétaire, ça le gêne. Donc dans ce cas-là, il est quitte. Ça c'est une première hypothèse. Ou bien je veux dire, non. Vesade miyad ou de mechayavle. Puisque dans le champ il a l'obligation, pourquoi dans le champ il a l'obligation? Puisque dans le champ ça ne le gêne pas. Donc puisque dans le champ ça ne le gêne pas, dans le champ il a l'obligation. Donc du coup, kevan de ichayev le besade, ichayev le bayir. Puisqu'il a l'obligation de le rendre dans le champ, il a l'obligation aussi de le rendre dans la ville. Ça veut dire comme ça. Je vais développer un peu plus ce que je veux dire. Imaginez-vous un vieux, d'accord? Imaginez-vous un vieux qui est gêné de le faire devant du monde. Comme je dis, il a l'habitude, quand il voit un objet dans le champ, il le rend à son propriétaire. Mais s'il doit aller jusqu'à la ville pour le rendre à son propriétaire, ça le gêne. Par exemple, le propriétaire il a oublié une petite valise. Il a oublié une valise dans son champ. D'accord? Lui, s'il voit le propriétaire à côté du champ, il le rendra. Mais s'il doit le ramener jusqu'à la ville, il dit ça c'est pas mon cas, je le fais pas. Vous suivez? Bon. Alors maintenant le problème qu'on a c'est comme ça. Quelqu'un, un vieux, il voit un objet. Il dit, moi je suis prêt à le prendre, à le garder ici, d'accord, à le mettre à côté dans ma chaumière que j'ai dans le champ, jusqu'à ce que je le vois. Mais c'est pas mon cavale de lui ramener dans la ville.
De toute façon, j'ai pas la force, ça se trouve, j'ai 30 kilos.
Non, c'est pas mal de faire, on parle ici de, j'ai pas envie de le faire, d'accord. Pas mon cavale. Alors regardez, la Gemara n'aura pas de réponse à cette question. On a deux manières de voir les choses. D'un côté, on va te dire, puisque tu me dis que tu es gêné de le ramener jusqu'à la ville, toi tu es prêt à le ramener jusqu'au champ, tu es prêt à faire 500 mètres pour le ramener jusqu'au champ. Mais le ramener jusqu'à la ville, tu es gêné. Donc du coup, on te dit, ne le touche pas. Pourquoi? Parce que quand on rend un objet, il faut aller jusqu'au bout. C'est pas tu le prends, c'est pas je le prends, je vais le mettre dans ma chaumière et après je le reverrai, je vais le rendre. Ah, on n'a pas besoin de ce truc-là. Tu le rends, tu vas jusqu'au bout. Et si tu n'es pas prêt à le rendre jusqu'au bout, tu le laisses.
Mais à ce moment-là, il peut y avoir un vagabond qui passe, qui le ramasse, qui ne le rendra jamais.
Ah voilà, première hypothèse de la Gemara, elle te dit, si tu penses que c'est pas de ton cavote de le ramener jusqu'au bout, jusqu'à la destination, tu ne touches pas. Tu ne touches pas, c'est pas tes affaires. Si tu penses que c'est pas ton cavote de le ramener jusqu'à sa destination, tu le ramènes pas. Ne le touche pas et un autre y passera. Ça c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse de la Gemara, elle dit non. Puisque tu étais prêt à le ramener dans le champ,
Oui.
D'accord. Donc, pourquoi tu n'aurais pas les mêmes dînes, d'accord, d'un ancien qui a frappé l'animal, qui a un petit peu bougé l'animal avec son bâton. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Une fois que tu as commencé, tu dois la finir. Donc même si tu ne veux pas, il faut le ramener jusqu'à la ville. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas le même cas.
C'est les seules objections, il n'y en a pas d'autres.
D'abord, cette question, qu'est-ce que vous en pensez?
Là, on est dans deux
cas. Oui, ça se colle bien.
Alors, déjà, je vous dis ce que c'est
la
Gemara.
Pour moi, je dis non, parce que ça, c'est deux cas différents. Dans un cas, son action, il est dans les champs, et là, ça ne l'ennuie pas. Mm-hmm. Et un deuxième cas...
Il était déjà dans la ville.
Il est dans la ville, et là, ça dérange.
C'est ça la question, la Gemara. Il a raison. C'est pour ça qu'on garde la première hypothèse.
Donc, il n'y a pas de similitude avec le cas où il a commencé, parce que ça, c'est la même action quand il a commencé avec l'animal. Donc, il doit finir, c'est la même chose.
Très bon point. C'est pour ça qu'on a la première hypothèse que la Gemara a dit.
On parle du cas général, là.
Quelle première hypothèse la Gemara a dit? La première hypothèse que la Gemara a dit, c'est que, puisque je ne compte pas le rendre jusqu'à la ville, donc, ce n'est pas, je ne l'amène pas jusqu'à destination, alors ne le touche pas. Écoutez bien la réponse de la Gemara. La Gemara a dit, tekou. Quand on dit tekou, ça veut dire quoi? Tekou, c'est...
Et elle est polie, hein.
Tekou. D'accord? Tekou, ça veut dire... ça veut dire qu'on n'a pas de question. On n'a pas de réponse, pardon. D'accord?
C'est le problème, c'est... Videur, sortez-le. Il dissipe
là. Parce que tu mets le U à l'envers.
Alors, qu'est-ce que dit la Gemara?
La Gemara, elle dit... Il dissipe la classe.
Ça fait des centaines de fois que je vois Tekou dans la Gemara, j'ai jamais eu cette idée.
Mais parce que là...
Donc, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara dit Tekou. On n'a pas de réponse. Tekou, c'est le rachetevot de Tishbi, Yetares, Kushot, Veibayot. Tishbi, c'est Eliyahu Hanavi. Il appelle Eliyahu à Tishbi. Il répondra toutes les questions qu'on a. C'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse à cette question. Pourquoi? Parce que on peut tirer des deux côtés. D'un côté, on peut dire que puisque c'est pas mon habitude de le faire et que je compte pas l'amener jusqu'à destination, alors ne le touche pas. Comme ce qu'a dit M. Daniel. Mais d'un autre côté, on va dire que puisque j'étais prêt à le ramener dans le champ, donc c'est comme si que j'ai bougé un petit peu l'objet, donc je suis mochel sur mon kavod. Si je suis mochel sur mon kavod, eh ben je dois l'amener jusqu'à la ville. On n'a pas de réponse à cette question. La Gemara reste sans réponse. Ensuite, la Gemara, d'accord, la Gemara nous ramène un autre cas. Amar Rava. On a dit que, qu'est-ce qu'elle dit Rava? Kol shebeshelo machazir, beshel shechavero nami marzir. Là, c'est un grand, grand principe qu'on va devoir développer. Que si, beshelo marzir, si c'est un objet, que s'il m'appartenait, je serais parti le chercher, alors, et que j'aurais pas dit c'est pas mon kavod, je serais parti le chercher, beshel shechavero nami marzir, j'ai l'obligation de chercher s'il appartient à mon ami aussi. Vous entendez le principe qu'il dit Rava? Mm-hmm. C'est un principe énorme ce qu'il est en train de nous dire. Il dit que, oui, c'est facile à dire Zakat, c'est pas mon kavod. Il dit, mais si ça serait ton objet, est-ce que tu serais parti le ramasser? Est-ce que tu serais parti le chercher? Il dit, ah, j'ai oublié tel objet, il y a un quart d'heure dans tel endroit.
Je ne me baisserai pas à ramasser mes 50 000 euros.
Est-ce que tu serais parti pour le retourner, pour le chercher?
On revient,
évidemment, je serais parti.
On revient à la règle que si c'est pas un Zakat, il a l'obligation de ramasser.
Très bien. Alors maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Rava. Rava a dit comme ça. Rava a dit que, il nous donne un principe, le principe suivant, il dit que j'ai l'obligation de ramasser un objet seulement s'il m'appartenait, je l'aurais ramassé.
C'est ce qui a été dit tout
d'accord,
à l'heure.
D'accord, attendez. Là, tout à l'heure, on a donné une autre variante, un vieux. Mais là, on parle de quelqu'un qui n'est pas vieux, un jeune.
Hors du Zakat.
Et un jeune blindé.
On a dit qu'il a l'obligation d'accord de ramasser.
Désolé. Très bien. On parle d'un blindé. D'accord.
Je
veux pas les ramasser. Il y a 50
centimes. Mais si c'est un Zaken,
il y a 50
centimes et qui en plus bosse et que l'objet il se trouve dans un cimetière, qu'est-ce qu'on fait?
D'accord.
Ça peut être des trois.
Alors attends, bon, on parle pas des trois, on parle de un des trois maintenant.
Bon.
Qu'est-ce qu'il nous dit Rava? Il nous dit que j'ai l'obligation de rendre seulement si je me serais dérangé pour moi-même. C'est-à-dire si je me rappelle que j'ai oublié il y a un quart d'heure un objet dans un endroit, je refais le retour pour ça. Mais si c'est pas le cas, moi, j'ai pas l'obligation. On va développer, hein, vous inquiétez pas. Kol shebeshelo porek vetoen, beshel chavero nami porek vetoen. Vous savez qu'il y a une mitzvah de la Torah que lorsqu'on voit un ami qui est bloqué, qui a du mal à, qu'il a sa charge qui est tombée de son âne, d'accord, j'ai l'obligation de l'aider à remettre sa charge sur son âne.
Bon.
Donc aujourd'hui même si c'est un ennemi. Oui.
Une question alors, si un goïm.
Aujourd'hui, donc juste deux secondes. Aujourd'hui, ce serait pour la voiture, d'accord. Je vois quelqu'un, il a mis sur la galerie quelque chose et c'est tombé, d'accord. C'est tombé de la galerie. J'ai l'obligation de l'aider à le remettre.
C'est un goy qui s'occupe de cette personne et moi je passe devant parce que ça m'est arrivé une fois. Il y a une personne, un membre de la communauté âgé et bon, il avait du mal à marcher comme ça. Et un goy, il était avec lui pour l'aider à.
Bon,
et moi j'étais un petit peu pressé tout ça, donc j'ai suivi mon chemin. Mais après j'ai dit peut-être que.
Maintenant il a. Il y a quelqu'un qui s'occupe de lui.
Ouais, mais c'est un ange, c'est un ange.
Et alors?
Non, je pose la question.
D'après la lacha, ouais. Il s'occupe de lui.
Je sais que mon cousin, voisine chez la grand-mère de ma femme, elle tape même si tu fais une douche. C'est-à-dire, elle tape tout le temps. Elle tape. Et à un moment, elle était tout seule, c'est une dame âgée quand même. Elle devait porter un fauteuil. Il l'a aidée. C'est son ennemi, hein, maintenant. Tous les jours, elle lui fatigue. Il a aidé pour le monter jusqu'à chez elle. Depuis ce jour-là, elle n'a plus rien.
Ouais.
C'est incroyable.
Elle est morte, peut-être.
Non.
Mais tu sais pourquoi elle tapait?
Alors,
elle a les jambes de bois.
Donc, on dit comme ça. Mais alors, vous savez, comme j'ai dit, donc on a l'obligation d'aider son ami ou même son ennemi, de charger et de décharger.
Et si par exemple,
qu'est-ce qu'il nous dit les principes Rava? Il nous dit que j'ai l'obligation d'aider mon ami à charger et à décharger, seulement sur quelque chose que moi aussi j'aurais chargé et déchargé, pour moi-même. C'est du style, le gars il est en train de charger et décharger des poubelles, que moi je l'aurais pas fait dans la rue comme ça. D'accord?
Ça. Des pots de bêtes qui sentent pas bon.
Ou bien le gars est en train de décharger des trucs,
ou
des d'accord, ou une valise sale, ou des trucs que moi j'aurais pas touché. Est-ce que j'ai l'obligation de l'aider?
Non.
Non, tu ne vois pas ce que tu aurais fait, on te demande est-ce que j'ai l'obligation d'aider. On s'est dit, j'ai pas l'obligation d'aider, pourquoi? Parce que, pour mon cavot, si pour moi je l'aurais pas fait, je n'ai pas l'obligation de le faire pour quelqu'un. Encore une fois, si je veux le faire, ma mitzvah, pas de problème, tu le fais, pas de problème, mais j'ai pas l'obligation. Avec Marane, on raconte une histoire. Hein.
Voilà pourquoi pour la trouvaille, on m'oblige à prendre la chose.
Pour la trouvaille, on m'oblige à la prendre, seulement si c'est quelque chose que s'il m'appartenait, je l'aurais pris.
Ouais.
Mais si c'est quelque chose que s'il m'appartenait, je l'aurais pas pris, ça m'intéresse pas, j'ai pas l'obligation.
Et si c'est dégoûtant, l'objet?
D'accord. C'est pour ça que je donne un exemple. Je trouve un stylo par terre dans la rue. Est-ce que j'ai l'obligation de le ramasser?
Si c'est un Mont Blanc.
Attendez, oui. On va faire un calcul. Si je me rappelle que j'ai oublié un stylo il y a un quart d'heure dans un endroit, est-ce que je vais me prendre la tête de repartir pour chercher le stylo?
Si c'est un Mont Blanc, oui. Si c'est un bic,
voilà. Si c'est un bic,
ouais, je laisse tomber.
Je laisse tomber. Donc quand je trouve un bic par terre, est-ce que je dois le ramasser?
Non.
Non.
Attends, et si j'ai envie de le ramasser?
Ah, si je veux, je peux. D'accord? Si je veux, je peux. Mais j'ai pas l'obligation.
Alors?
J'ai pas l'obligation.
Ouais.
D'accord? Bon. Par contre, sur mon portefeuille par terre, est-ce que si ce serait le mien, je me serais dérangé pour le chercher?
Ah oui,
bien sûr.
La lacha, c'est ça?
Oui. Rabbi Shmuel de Rabbi Yossi, avec l'asile Beoucha. On finit avec ça. Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yossi, il marchait dans la route, dans le chemin. Pagabé, Aougavra, il a rencontré un homme, d'accord? Avadare, pas très de oufé. Il a rencontré un homme qui portait une charge de bois. Vous allez voir, ça va être chaud. Il a rencontré un homme qui portait une charge de bois. Udvinu, Vekamitvar. Et cet homme-là a posé le bois pour se reposer. Amarlé, ensuite il se tourne vers Rabbi Shmuel, vers Rabbi Yossi, il lui dit, Délélie, aidez-moi s'il vous plaît à remettre le bois sur
mon épaule.
Sur mon épaule. Amarlé, Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi, il lui dit, Kamachavin, il lui dit, combien il vaut le bois? Combien il vaut le bois? Alors, il lui dit, Pagé des douzés, il lui dit, le bois il vaut un demi-douze. Yaïvlé, il a donné un demi-douze, il lui dit, prends un demi-douze et marche tranquille, je veux pas porter ce bois. Veafkere, et il a abandonné le bois. Donc puisque maintenant Rabbi Shimon, Rabbi aussi, il a acheté le bois. On est d'accord?
Ouais.
Donc il a pris le bois, il l'a donné, il a fait le riche là. Il a donné le 2012, il a... Attendez, regardez pas la suite.
Attends, ça, je veux pas le voir.
C'est super. Veafkere, et il a abandonné. Donc pourquoi il a abandonné, Rashi explique, pour comme ça, si quelqu'un d'autre le prend par la suite, il n'a pas transgressé l'interdit de l'otixol, de voler. Moi je l'ai abandonné, celui qui veut, il le prend. Adar Zahabaou. Ah, je vous l'avais abandonné, je le reprends. Maintenant aidez-moi à le charger. Alors, Adar, il n'est pas gâté tout ça. Rabbi Shmuel de Rabbi aussi, il lui redonne un demi-zouz. Il dit, je le redonne un demi-zouz et il abandonne. Là, il est pas bête, Rabbi Shmuel de Rabbi aussi.
Ça peut durer longtemps.
Raviad avec Abaye et le Midir et le Miskaveu. Il a vu que le gars il était prêt de le reprendre. Et que bon, il allait s'amuser à faire ce petit jeu pendant longtemps. Amar, il lui a dit, les coulés Alma Afkirinou. Il a dit, bon, je l'abandonne pour tout le monde, mais l'Arla Afkirinou, sauf pour toi. Et l'affaire s'est arrêtée comme ça. D'accord? C'est vrai que Marc pose la question, il dit,
attends, parce que tu as sauté une fois, il lui a donné deux fois en 2012.
Deux fois, oui, bien sûr.
C'est-à-dire, oui, d'accord.
Bien sûr. Alors, Marc pose la question, elle dit, attends, c'est quoi cette histoire?
Texte à vérifier.
Oumi avait Efker qui a Gavna. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est quoi la solution ultime qu'il a dit? Il a dit, je l'abandonne, sauf pour toi. Est-ce qu'un Efker comme ça est valable?
Ouais, c'est bizarre. Hein.
D'accord? Dit, Atnan, voilà, ça veut dire un FKR comme ça, un FKR partiel. Est-ce que c'est un FKR qui va là?
C'est la discrimination.
Atnan, voilà, s'enseigner.
Bet
Shamay Omrim, Bet Shamay dit la chose suivante, il dit, FKR l'anim, FKR. Si quelqu'un il dit, j'abandonne mon objet, voilà, j'ai un frigo. D'accord, je le mets dehors dans la rue, je dis, il est FKR. D'accord? Non. Je dis, il est FKR que pour les pauvres.
C'est possible.
D'accord? Marloket, Bet Shamay, Bet Hillel. Bet Shamay dit, il est FKR. Pas de problème. Même un efker, même un abandon partiel, d'accord, est un efker. Comment il traduit efker ici en français?
Abandonné.
Devenir
abandonné.
Son propriétaire.
Ouais, bon, efker, c'est le terme de la Gemara. Voilà, efker. Alors, Bet Shamay dit, c'est bon. Ou Bet Hillel Omrim, Eno efker. Il n'est pas efker. Acheye efker l'anim vela shirim. Jusqu'à ce qu'il soit efker 100% pour les riches et pour les pauvres. Kishmita, comme la Shemitah. Comme les fruits de la Shemitah, vous savez que les champs, même quand on s'aime pas, mais ça pousse. D'accord. Les fruits de la Shemitah, on dit qu'on doit les abandonner totalement, intégralement. Alors, comment on fait ici? Rabbi Shmuel, Rabbi aussi, il ne peut pas suivre la vie de Bet Shammai. Bet Shammai, c'est bon, on ne suit pas la vie de Bet Shammai, on suit la vie de Bet Hillel. Donc, comment Rabbi Shmuel, Rabbi aussi, il a pu dire à cette personne, il a pu lui dire, ces objets-là, il a pu lui dire, les fagots de bois sont efker pour tout le monde, sauf pour toi. Il ne peut pas suivre la vie de Bet Shammai. On a dit qu'un efker partiel, d'après Bet Hillel, ce n'est pas valable. Comment on fait? Oui?
Il était avant un Bet Hillel.
Bien sûr. Attends. Non, il est obligé de suivre le Bet Hillel. Répond la Gemara. Et là seulement, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, il est cool et Alma Afkirinou. En vérité, Rabbi Shmuel bar Rabbi Yossi, il a abandonné pour tout le monde parce qu'il est obligé de suivre le Bet Hillel. Pourquoi il a abandonné? Il a abandonné pour pas qu'une personne qu'il trouve après va voler. Mais seulement quoi? Mais Milta de Alma ou de Hukme. Il a fait Zarma. Il a fait Mito. Par rapport à la personne, parce qu'il a vu que cette personne allait continuer avec ce petit jeu pendant longtemps.
Mais elle était ignorante. D'accord,
voilà, c'est ignorante. Donc il a vu que ce gars-là, il allait continuer avec son petit jeu, et qu'en vérité, il voulait déposséder Rabbi Shmuel. Donc Rabbi Shmuel lui a fait croire que je ne l'ai pas abandonné pour toi. Mais en vérité, il l'a abandonné même pour lui, parce que sinon, le FK ne serait pas un FK.
Ignorante, il savait qu'il avait l'obligation, quand il demanda à un juif, de se faire charger sur l'épaule, donc il n'était pas
ignorant. Bah, apparemment, il était assez ignorant pour ne pas savoir ça.
Il était rapide, mais force de loi.
Alors, attendez.
Zaken qui dit un truc.
Non,
il n'est pas ignorant. Enfin.
Mais non, attendez.
Il m'a demandé une fois, il a vu qu'il était
ignorant. L'Agmara, j'attendais que vous me posiez une meilleure question que ça. L'Agmara pose la question, et j'ai fini avec ça, et dit... Ah, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, mais voilà, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi, Zaken veut ne les faire vodo avant. C'est un Zaken, Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi. Donc c'est pas son kavod. Et tu m'as dit que quand c'est pas son kavod, attendez, quand c'est pas son kavod,
il a commencé à toucher.
Il a pas touché?
Non, il l'a payé.
Le gars, il lui a dit, aidez-moi s'il vous plaît.
Ah, donc, payé.
Pourquoi Rabbi Shmuel Rabbi Yossi, il a pas dit, désolé, je suis Zaken, c'est pas mon kavod? Pourquoi il a rentré dans ce petit jeu de payer?
Il a payé.
Non, mais c'est pas le même cas. On a dit que quand c'est une trouvaille,
oui,
il a pas.
Mais on a dit que c'est pareil.
Mais quand c'est pour aider.
Mais on a dit que c'est pareil pour Porek Vetoen. On a dit que c'est pas. Qu'est-ce qu'elle veut dire Rava? Rava a dit que si pour moi je ne l'aurais pas fait, c'est pas mon cavote de monsieur. C'est pas mon cavote d'un rave de marcher avec des fagots de bois sur le dos. Il n'a pas l'obligation de l'aider à aider quelqu'un d'autre à le faire.
Mais il marche pas le fagot.
D'accord?
Il faut les juste lui porter sur son
dos. Très bien. Mais qu'est-ce qu'a dit Rava? Rava a dit que si c'est pas de mon cavote, que pour moi je l'aurais pas fait, je peux pour quelqu'un d'autre. Donc pourquoi Rabbi Shmuel Bar Yossi s'est pris la tête? Il aurait pu lui dire désolé monsieur, je suis gêné, ça se fait pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il répond la Gemara? La Gemara dit Rabbi Shmuel Bar Yossi, il est fini Mishurat Adin ou Deavan. Il a fait mieux que le din. Quand il a donné la pièce, il lui a dit tenez un demi-douce, il a fait mieux que le din. Et effectivement, selon le din, il n'avait pas l'obligation. Détané, c'est enseigné, Rabbi Yosef a dit la chose suivante. D'accord? Qu'il a dit, c'est écrit Veodata Laem Zebetrayem, et aderer, Zogmilu Trasadim, Asher Choba Zobikucholim, Ba Zogvura, Veet Amase Zeadin, Asher Yasu, Zonefni Mishuratadim. Alors, le verset il dit comme ça. On va prendre le. On finit avec ça, on va prendre le pasouk, on passe côté Gemara. Prenez le pasouk avec les nekudotes, le pasouk numéro Aleph. Vous l'avez ici. Le pasouk il dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu. D'accord? Il dit. Veiz Aïk Moshe Rabbeinu devra transmettre au juge qu'il a nommé avec après Yitro. Veiz Arta et M. Tu devras, donc Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, tu devras leur demander de faire attention. Et Achukim aux lois. Veet à Torot tous les enseignements. Veodat Alaem, tu leur enseigneras. Alors écoutez bien. Écoutez bien ce que je dis en moi. Veodat Alaem, tu leur enseigneras. Et à Derer Kiel Chouba, le chemin qu'ils devront suivre. Veet à Maaseh Asher Yasun et l'action qu'ils devront faire. Donc le chemin qu'ils devront suivre et l'action qu'ils feront. Ça s'appelle un pléonasme en français, ça.
D'accord? Non, ça peut ne pas être même. Oui.
Alors, d'abord, si tu me dis un chemin, quand je dis à quelqu'un je monte le chemin, bah ça veut dire c'est le chemin qu'il devra prendre. D'accord? Je dis pas je monte le chemin que tu devras prendre. Oui. Quand je dis je te montre l'action, bah c'est l'action que tu dois faire, c'est évident. Alors regardez comment la Gemara dit. La Gemara dit comme ça. Rabbi Yosef a dit la chose suivante. Je reprends le mot. Détané Rabbi Yosef. Veodat alaem, quand il dit tu leur devras leur enseigner de quoi il parle, zebetrayem, ça veut dire qu'on doit apprendre la parnassa aux gens. Il faut leur apprendre la parnassa pour qu'ils aient un boulot de quoi vivre. Et aderer, quand le verset après a dit tu leur montreras le chemin, c'est quoi le chemin, qu'est-ce qu'on rajoute? Ça c'est une dracha. Zog milut rasadim, ça veut dire qu'il faut apprendre les gens à faire milut rasadim. Ensuite, on a dit, le verset a dit yel chouba. On a dit le chemin qui marcheront, qui suivront. Le pléonasme. Zebikou cholim. C'est pour nous apprendre que des fois, il faut prendre la route, il faut marcher pour faire Bikur Cholim pour aller rendre visite aux malades. D'accord? Après, vous verrez dans les notes, il explique comment on a pris chaque détail. Bah, le chemin qu'ils suivront, d'accord? Zogvura, de là on apprend qu'il faut des gens qui s'occupent de l'enterrement. Enfin, Vehetamaase, après il a dit tu leur apprendras l'action qu'ils devront faire. Zéadin, de là on apprend que les Chachamim doivent s'occuper du din, que les gens font le din. Asher Yahasun, qu'ils feront, donc le pléonasme, l'action qu'ils feront. Zol et Fini Mishuratadin, c'est pour nous montrer que des fois, il faut aller chercher plus loin que l'action. Il faut aller suivre l'Ifni Mishuratadin mieux que le din. Donc en vérité, Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, donc ça c'est la source d'où on sait qu'il faut toujours chercher à faire mieux que le din. Parce que normalement, on a le principe qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi. D'où on sait qu'il faut aller chercher plus loin que le din, c'est ce pasouk-là. D'accord? Veodat Alaem. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, est-ce qu'il avait l'obligation à la base d'aider la personne à charger? Non. Pourquoi il est rentré dans ce très loin? Pourquoi il a fait?
Pour
faire mieux que le din.
Oui, il s'est fait dépouiller en
attendant. Mais du coup, comme il a vu qu'il était en train de se faire dépouiller, donc il a dit, bon, écoutez, monsieur, je l'abandonne pour tout le monde et pas pour vous. Bien qu'en vérité, dans
il
sa tête...
Il n'avait pas le droit de dire ça.
Dans sa tête, il a abandonné pour tout le monde.
Ouais. Ouais, il avait la cavana.
Parce qu'un FKR, ça peut se faire mentalement aussi.
Et comment on a répondu quand il a dit, je l'abandonne sauf à toi. Parce qu'on a dit que d'après Beth Hillel...
On a dit qu'en vérité, il l'a abandonné pour tout le monde. D'accord? Mais seulement, devant cette personne-là, il lui a dit, je l'abandonne pour tout le monde sauf pour vous. Juste pour qu'il laisse tranquille, pour que le gars arrête son petit jeu.
En vérité, ça marche pas.
En vérité, ça marche pas.
C'est un coup de bluff.
Un coup de bluff, ouais.
Et s'il avait repris
le bonhomme... Ah oui, il avait faire un escroc en face de lui.
Attends, et s'il avait redit le bonhomme... Donnez-moi un coup de main. Comme il avait déjà fait une ou deux fois, il devait continuer encore.
Ah oui, il devait continuer, il était obligé. Même si Rabbi Shmuel Bar Yossi l'abandonne. Mais si l'autre, quelque chose qui est abandonné, il a le droit de le prendre. Vous comprenez, c'est ça le problème. Donc ça peut, on peut aller avec ce petit jeu sans fin. Donc il était obligé de. Il avait un
escroc. Il avait monté vraiment sur le dos cette fois-ci, tu vois.
Voilà. Bon, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on développera un peu plus ce pasouk-là de Rabbi Yosef. Et bon, on a parlé de l'enterrement, on a parlé d'apprendre un métier, on a parlé du cours Cholim. C'est intéressant parce qu'on va parler beaucoup de détails sur ça, c'est très intéressant. Voilà, on s'arrête ici pour aujourd'hui.